Bertrand, alors vous nous venez de Boulogne-sur-Mer. Comment vous avez connu ce prix de la Cour de l'imaginaire ?
Tout à fait par hasard, en consultant Internet.
D'accord. Donc c'est un prix qui est connu chez les auteurs de science-fiction ?
Je suis incapable de répondre à... Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai découvert par hasard, mais autour de moi, je ne connais personne qui connaissait ce prix.
D'accord. Donc, vous êtes auteur de science-fiction, de fantasy, enfin nous, on a un peu de mal à s'y retrouver dans tous ces thèmes. Vous vous situez comment exactement ?
Je dirais plutôt science-fiction fantastique. En tous les cas, ce sont des personnages comme vous et moi à qui il arrive des choses extraordinaires.
Bon, on ne va pas dévoiler le roman. Alors, donc, il va être édité ici. C'est quelle maison d'édition ?
Royce.
D'accord. Et on pourrait le trouver où, ce roman ?
Je pense que dans toute librairie, en le commandant, on peut le trouver. Pas de problème.
D'accord. Vous avez un site internet, vous ?
Moi, personnellement, non.
Non ? D'accord. Alors, si on veut vous contacter, on écrit à la maison d'édition Royce. Alors, c'est 2ROY2Z, voilà, à Youth. Et il nous donnera les contacts. Voilà. Alors, quand même, quelques mots sur votre roman. De quoi ça parle ? Le synopsis.
Alors, ça se passe dans une île, sur une île volcanique, qu'on pourrait comparer à l'île de la Réunion, mais en climat tempéré. Sur cette île, des 5 enfants disparaissent de manière mystérieuse, sans laisser de traces. On demande donc à un psychologue venu du continent, spécialisé dans l'enfance, pour mener une enquête qui ne trouve pas d'indice concret. Et donc, à partir de là, cette enquête policière va déboucher sur quelque chose de beaucoup plus extraordinaire, quelque chose de fantastique.
D'accord. Ça nous laisse de l'espoir ?
Ça nous laisse de l'espoir, oui. Oui, oui.
Très bien. Je vous remercie. C'est bon, ça ira. C'est bon. Pierre Stolz, alors maintenant, vous êtes un habitué de la Cour de l'imaginaire.
Ah oui, c'est la troisième fois que je viens à Nancy pour... Le prix de l'imaginaire.
Et comment vous trouvez le cru de cette année ?
Ah, il était très bien. Mais enfin, tous les prix d'imaginaire étaient bien. Je suis même stupéfait qu'on découvre tout d'un coup de nouveaux talents.
D'accord. Voilà. Et comment se porte la science-fiction actuellement ?
Très mal. Ben, elle s'écroule complètement. Maintenant, il n'y a plus que de l'heroic fantasy ou de la bit lit, c'est-à-dire bite literature. C'est-à-dire tout ce qui est histoire de zombies, de loups-garous, de vampires. Et même aux États-Unis, ça se porte très très mal. Il y a un auteur américain qui s'appelle Paolo Basugilapu, qui disait dans une interview, actuellement un roman de science-fiction aux États-Unis qui se vend entre 3000 et 3500 exemplaires, c'est qu'il a fait un tabac.
Ah d'accord. Voilà. Alors là, vous faites une œuvre de sauvegarde, une œuvre salutaire actuellement.
Ah bah oui, le prix de l'imaginaire fait une œuvre de sauvegarde. Et maintenant, la science-fiction ne se trouve plus que chez les petits éditeurs. Comme justement La Cour de l'Imaginaire, ou alors Armada, ou Royce, ou Le Pulp de Mu, ou ActuSF. Mais les grands éditeurs, ils s'en fichent un peu, quoi.
D'accord, ouais, c'est bien dommage. Alors, bon, d'autres projets pour La Cour de l'Imaginaire ?
Ah ben, je suis prêt à revenir l'an prochain. D'accord. Voilà, et à lire le prix de l'imaginaire et en faire une bonne critique. Parce que tous les prix de l'imaginaire que j'ai lus, j'en ai fait des critiques pour des revues de science-fiction.
Alors, bon, bah, quelques revues, là, pour nos auditeurs.
Alors, il y a la revue Bifrost et la revue Galaxy. Maintenant, je travaille actuellement pour la revue Galaxy.
Des revues qu'on peut trouver partout, sur le moment ?
Bifrost peut se trouver en librairie, et Galaxy, on peut les commander ou alors s'abonner. D'accord. C'est encore plus simple.
Voilà. Merci, Pierre. Alors, à l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Vous êtes la lauréate de la Cour de l'imaginaire l'année dernière, voilà. Donc, et maintenant, vous êtes passée dans l'équipe organisatrice.
En fait, pas vraiment du côté édition, car je ne relirai pas les manuscrits, mais au niveau de... Je serai un satellite, en fait, au niveau de l'animation du café littéraire.
D'accord. Alors, comment s'est passée cette expérience de la Cour de l'imaginaire ? Positive ?
C'est très positif, parce que c'était intéressant d'avoir le retour de plusieurs personnes, en fait, parce qu'ils sont quand même 3 dans l'équipe à lire les romans et les recueils de nouvelles. Et ils ont un regard très perspicace. Ils m'ont permis, par exemple, d'élaguer certaines parties trop longues de mon roman. Donc il y a eu un véritable travail d'édition. Même si ça a été assez condensé en un mois, je pense que mon roman a beaucoup gagné.
Alors je viens d'avoir un entretien avec Pierre Scholz. Lui, il est un peu pessimiste sur l'avenir de la science-fiction.
Oui, j'ai vu qu'il était très pessimiste. Je nuancerai son propos. Je pense qu'elle traverse peut-être une crise, mais on a des signes au niveau d'autres types de médias, comme le cinéma, qui tentent à prouver qu'elle a un bel avenir devant elle encore, et en particulier dans la littérature blanche, parce que si on étudie bien la littérature blanche en ce moment, étant donné qu'il y a beaucoup d'angoisse sur l'avenir de notre monde, tant écologique, au niveau de la guerre, des guerres possibles qu'on voit finalement germer en ce moment. Et les auteurs, donc très préoccupés, se projettent dans l'avenir. Et en littérature blanche, on a beaucoup de livres qui sortent, qui sont en fait de l'anticipation, mais qui sortent le label littérature blanche. Je peux vous citer par exemple Nancy Houston, auteure canadienne qui a trouvé domicile en France depuis des années. Et en retournant voir son pays, le Canada, en découvrant une région, on explore le gaz de schiste. Je crois que c'est du gaz de schiste de manière horrible, en bousillant complètement le paysage. Elle a eu un coup de spleen, elle croyait en son pays et le croyait incapable de permettre de telles horreurs. Et elle a écrit dans la foulée un roman. Et elle s'est dit, mais qu'est-ce que j'écris là? J'écris de la science-fiction, ça s'appelle le Club des miracles relatifs. Et elle est allée voir son éditeur, je crois que c'est l'Acte Sud, je ne suis pas sûre, tu penses que c'est l'Acte Sud, et qui lui a dit, mais non, pas de problème, c'est intéressant, allez-y. Elle a écrit son premier roman de science-fiction, elle avait toujours écrit que de la littérature blanche. Et elle est loin d'être la seule.
Mais est-ce qu'on peut espérer une science-fiction heureuse?
Ça existe. C'est vrai qu'au niveau des avenirs de la planète, c'est toujours assez noir. On la voit toujours détruite. Mais on a aussi, en robotique, on a des messages d'espoir. Les robots vont nous aider, pas forcément nous faire du mal. On pense à la fin du travail.
Ah oui, c'est bien.
Il y a beaucoup de sujets à explorer au niveau social qui ne sont pas forcément déprimants.
Merci Hélène. Emmanuel, donc vous êtes lancé dans la cour de l'imaginaire. Pourquoi ce choix ?
Oh, c'est plus un choix de cœur qu'un choix économique, on va dire. Ayant rencontré Raymond il y a quelques mois, on a échangé, on a tout de suite sympathisé. Il m'a parlé de cette cour de l'imaginaire, du travail qu'il faisait pour promouvoir la science-fiction avec des auteurs inconnus, de talent. Il était plus ou moins en panne d'éditeur et j'ai adhéré au projet parce qu'ils font un gros travail éditorial. Ils sont sans parti pris, il y a une vraie recherche de qualité dans un bon esprit. Et cette proximité aussi, puisqu'on est distant de quelques dizaines de kilomètres, m'a plu parce que ça permettait d'avoir des acteurs locaux qui sont passionnés par la littérature de l'imaginaire pour sortir des livres et faire connaître des auteurs.
Alors, votre maison d'édition, Royce 2R, OY2Z, bon, est spécialisée dans la science-fiction ?
Alors, c'est vrai qu'au départ, quand je me suis lancé il y a 4 ans, c'était très modeste, c'était plutôt un hobby, mais il y avait cette volonté, moi qui étais un gros lecteur, de créer quelque chose. Donc, je créais déjà des livres papier en tant qu'imprimeur, et ce côté édition m'attirait. La difficulté était de trouver un lectorat, et comme un lectorat et des textes. Et comme j'étais un gros lecteur de science-fiction, je me suis dit, voilà, c'est ça qui me plaît, c'est ce que j'aime lire, donc les mondes de l'imaginaire seront ma ligne éditoriale principale. C'est un marché de niche, on vend plus facilement du Musso, du Lévy, de la littérature de vacances, de plage, que de la science-fiction, mais c'est quelque chose que je prends toujours plaisir à lire, que ce soit sur les manuscrits qu'on peut m'envoyer ou sur les livres que je peux acheter à droite et à gauche.
Le problème de la science-fiction, c'est que généralement, ça nous met le moral dans les chaussettes, parce qu'on imagine des mondes, ça ne s'arrange pas.
Ben disons que la tendance actuelle est un peu au catastrophisme. C'est vrai que la plupart des manuscrits que je reçois actuellement, c'est du post-apocalyptique. L'homme a détruit la Terre, la nature a envahi l'humanité, a repris ses droits, on survit, il y a eu telle ou telle catastrophe qui fait que l'humanité n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et c'est vrai que c'est peut-être le reflet de ce que les gens ont dans la tête actuellement. On est un peu loin des romans flamboyants qu'il y avait dans les années 50 et a fortiori 60, avec cette période un peu insouciante où la science-fiction était presque joyeuse parfois. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à voir un peu le côté obscur de ce genre de littérature.
Ah ben écoutez, que la force soit avec vous et qu'on arrive vers une science-fiction heureuse.
les bons gagnent toujours à la fin.
Merci.